Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour et bienvenue pour cette émission thématique, une émission cette semaine qui porte sur le PPV, le pacte du pouvoir de vivre. Pour m'accompagner aujourd'hui dans le studio de 48FM, 4 personnes. J'accueille notamment Nicolas Trottoin, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement de la Lozère. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Magali Allier est également avec nous. Vous êtes coprésidente de la Ligue de l'enseignement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean-Pierre Allier est aussi autour de cette table. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Vous êtes président du foyer rural de l'Anglade et membre du conseil d'administration de la Fédération départementale des foyers ruraux. Et enfin Rose Filba, coordinatrice du PPV en Lozère et rapporteuse de la synthèse du laboratoire gesticulé. On en parle juste après. Bonjour Rose.
Bonjour.
Et avant de justement expliquer les actions de ce pacte de pouvoir de vivre dans notre département, petite présentation de cette initiative nationale lancée il y a 5 ans. Le PPV a été créé donc en mars 2019, en pleine crise sociale avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, on en reviendra plus tard sur ce moment. Donc créé en 2019 par 19 acteurs de la société, des organisations environnementales, de solidarité et d'éducation, des mutuelles et syndicats. Et avec un constat et une proposition commune, ne plus dissocier les questions sociales, environnementales et démocratiques avec à la consultation de la société civile, un texte de 66 propositions est né à ce moment-là, un manifeste pour concilier lutte pour la fin du monde et bataille pour la fin du mois. Depuis cette étape, des comités locaux de ce PPV ont vu le jour partout en France, avec une première à Concarneau et désormais un en Lozère. Il est l'objet de cette émission. Alors, pour froisser personne, je vais citer tous les partenaires de ce comité du pacte de pouvoir de vivre en Lozère. La CFDT, le Secours catholique, la Mutualité française, les foyers ruraux de Lozère, la Ligue de l'enseignement, Emmaüs, les PEP 48 et l'APF France Handicap. C'est tout bon ?
Oui.
Alors, c'est tout bon. Il y a moins d'un mois, vous vous êtes réunis au centre d'accueil du chapitre Amende avec un laboratoire participatif et gesticulé pour thème « Mieux vivre en Lozère ». Alors, je ne sais pas qui veut commencer cette discussion autour de la table, mais quel était l'objet de cet événement du 14 novembre dernier qui a fait, et qui a fait quoi autour de la table ? Alors, qui veut commencer ?
On peut remasser
oui,
peut-être
je voudrais dire que là... à l'origine, donc, vous aviez dit le nombre d'organismes et le nombre de propositions. En fait, depuis, ça s'est énormément étoffé. Et donc, en 2022, il y avait 65 organismes nationaux qui font partie maintenant du pacte du pouvoir de vivre. Et les propositions sont montées à 90 propositions communes, qui sont un manifeste un peu, en gros, d'ensemble pour tous les partenaires qui ont décidé, effectivement, suite à la crise des Gilets jaunes, à être plus sortir de leur précaré. Pour avoir un peu une voix de la société civile, en clair.
Non, mais vous avez raison de faire la précision. Voilà, et puis je voulais un peu savoir, je ne sais pas qui veut commencer, Magali, sur quel était un peu l'objet de cet événement du 14 novembre dernier.
Et bien en fait, c'était donc, il y avait 6 tables rondes autour de thématiques aussi diverses que l'art, la culture, le soin, le logement, le vivre ensemble. Et aussi tout ce qui est lié au transport et le bien manger. Oui, j'ai oublié le bien manger.
Le principe, c'était qu'au départ, on avait fait une conférence en 2022. On avait fait une conférence, mais sur le style conférence. Donc, il y avait des intervenants qui étaient de la préfecture, du conseil départemental, des directrices de maisons de retraite, etc. Et on nous avait reproché, on nous avait dit, c'est gentil, mais vous faites un constat. Et on aimerait être acteur. Donc, on a réfléchi, on a essayé de faire une conférence de presse en 2023 qui n'a pas marché. Et alors, on a dit, il faut trouver un autre thème. Donc, Jean-Pierre nous a proposé une conférence gesticulée. On s'est trouvé confronté à l'explication, parce que conférence gesticulée, ça ne parlait pas à grand monde. Et en fait, donc, on s'est réunis et on a essayé de trouver quelque chose d'un peu ludique, mais où c'est que les gens pouvaient participer, se positionner sur aussi leur ressenti lozérien. Et c'est ce qui a donné cette préparation, là, justement. Donc, on avait un local qui était adapté pour les personnes en situation de handicap. On avait des salles où c'est que tout le monde pouvait se parler. Et on a mis des animateurs sur ce thème. Et après, on a fusionné toutes ces choses-là. Mais au départ, c'était pour essayer de donner une dynamique. Parce que des conférences, c'est lassant pour les gens. Ils ne se sentent pas impliqués. Et là, franchement, honnêtement, ça a bien marché. Les gens ont bien joué le jeu.
C'est quoi un peu le but, justement, par rapport à une conférence de but en blanc, le but d'un laboratoire gesticulé?
Alors le but d'un laboratoire gesticulé, c'est déjà le mot laboratoire. Donc on est là pour tester avec... alors là, on n'a pas des éprouvettes, on a des émotions, des impressions, et puis des réflexions. Voilà, et donc tout ça, ça se combine, alors pas avec des molécules, mais avec des gens. Et ce qui est intéressant, c'est cette interaction-là vivante. C'est un peu comme l'art vivant, en fait. On ne sait pas trop ce qui va en ressortir, mais c'est cette alchimie de la rencontre, des questions qui sont posées. Après, le gesticuler, c'était surtout dans le sens de Jean-Pierre, c'était surtout qu'on allait se déplacer à chaque fois. Voilà. Alors, c'était un clin d'œil, en fait. Il n'y avait rien. On n'a pas pris un concept de conférence gesticulée. C'était juste un clin d'œil à ça. Ce n'était pas non plus une conférence. Même si dans chaque thématique qui a été abordée, il y avait des apports avec sourcés pour permettre aussi une base de discussion.
Et justement, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'on est revenu sur le manifeste avec au début 66 mesures nationales, puis maintenant 90, c'est ça, environ 90. Tous ne concernent pas la même manière tous les Français. En Lozère, il y a d'autres problématiques. Moi, je pense, par exemple, la première de ces 6 mesures, c'était c'est toujours encadrer les loyers dans les zones tendues. C'est vrai que ça nous concerne moins. Là, quelle était dans ces 6 thématiques, des parts qui concernent peut-être plus les Lozériens que d'autres Français
La mobilité. Je pense que vraiment, Lozère, c'est... Autant quand on va à Paris, on prend d'ici, on prend un train ou on prend un bus, on arrive à Paris. À Paris, on n'a pas besoin de voiture, quoi. On se déplace partout, on va partout. En Lozère, quand on arrive en Lozère de Paris, si on n'a pas de voiture et il n'y a pas de bus, on est mal. Voilà. Donc si on n'a pas un ami qui a une voiture ou si on n'en loue pas une, en fait, on est vraiment très très contraint, quoi. Et du coup, on est contraint pour ses courses, on est contraint pour son logement, on est contraint pour l'accès à l'art. On est contraint pour le soin,
pour le sport,
et on est contraint pour le sport. En fait, on est contraint pour tout, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est la première grande difficulté, je pense, en Lozère.
Il y a un réel problème sur tout ce qui est maladie et traitement, tout ce qui est lié au vieillir, avec des maisons de retraite où les gens se souffrent, et les salariés, et d'ailleurs... parce qu'ils font mal, ils sont obligés de faire mal leur travail, et les gens qui sont en maison de retraite, qui se voient enfermés, etc. Donc, en gros, on avait trouvé toutes les problématiques qui posaient problème sur le département. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi, comme on dit, par exemple, beaucoup de groupes de locaux ont pris territoire zéro chômeur. Nous, pour nous, le problème du chômage, il existe bien sûr à Lozère, mais quand même de façon beaucoup moins cruciale que dans d'autres départements. Bon, on a choisi des thématiques qui concernaient beaucoup les Lozériens, et donc toutes ces thématiques sur le lien social, sur le mieux vivre globalement. Donc, à ces 6 tables rondes qu'on a organisées, tournantes. Alors tournantes, pourquoi gesticuler? Parce qu'effectivement, entre chaque table ronde, il y avait on se redistribuait sur toutes les tables. Jamais personne participait à la même table. Il y avait des animateurs de groupe, il y avait des rapporteurs. Et donc, c'était très dynamique. Et on a pu aussi avoir l'animation qui a été faite par deux animatrices hors pair. Donc Magali Allier sur l'aspect culturel et dynamique, et puis Irène Delaporte sur l'habitude d'animer ce genre de débat participatif.
Une table ronde était justement sur art et culture pour tous, et ça, c'est vrai que je l'ai quand même peut-être moins vu dans le manifeste originel de 2019. Magali, vous pouvez en parler un peu de cette partie-là, pourquoi dans la partie mieux vivre en Lozère, la partie accès à la culture est aussi importante que la santé, par exemple?
Alors, après, c'est pas... Enfin, je pense que l'accès à l'art, à la culture, c'est pas propre à la Lozère. On est sur une thématique qui pourrait concerner tout le monde. C'est vrai que de but en blanc, on pense pas à l'art et à la culture comme quelque chose qui en tout cas qui peut faire partie par exemple du champ du soin, mais parce que c'est vraiment, c'est ouvert à tous et pour tous. C'est-à-dire que l'art et la culture, on n'a pas forcément besoin d'avoir une éducation à, alors quand on l'a, ben, c'est encore mieux, mais ça peut concerner les bébés, ça peut concerner n'importe quelle personne, allant de zéro jusqu'à pas d'âge en fait. Et ça peut créer du lien de façon très simple, avec des structures de proximité, comme des bibliothèques, comme par exemple des associations, nous, qu'on porte à la Ligue, comme les Réfères Lire, des choses comme ça. C'est des choses qui paraissent très simples, prendre un livre, etc. Mais ça amène du sensible, ça nourrit l'imaginaire, ça crée du lien entre les gens autour d'un livre, autour des mots et autour de l'art. Et c'est vrai que c'était important, je pense, de remettre dans ce type d'action, comme le pacte du pouvoir de vivre, l'art et la culture, que ce soit vraiment quelque chose à part entière.
Oui, parce que ça, il y avait aussi des musiques et des textes déclamés pendant ces tables rondes, donc il y avait aussi de l'art à ce moment-là.
C'est vrai que là, on est sur à la fois le soin, mieux vieillir ensemble, puisque c'est aussi faire des ponts entre, on va dire, les générations, entre plusieurs personnes d'âge différents. Et effectivement, c'est le premier acte créatif, c'est la lecture à voix haute. Enfin, c'est souvent oublié, mais c'est quelque chose de très important et qui peut être... la plupart des gens, on peut s'engager dessus, parce qu'après, c'est qu'est-ce que lire à voix haute, hein. Ça peut chanter, ça peut être raconter une poésie, lire un texte. C'est très vaste.
Dans cette thématique, au niveau de la source, on a parlé d'un livre qui est extraordinaire, qui a été écrit par Pierre Lemarquis, préfacé par Boris Cyrulnik, qui s'appelle « L'art qui guérit ». Et en fait, moi, je suis tombé dessus par hasard dans une librairie à Montpellier. Je cherchais des livres autour de ça, parce qu'on porte beaucoup la réflexion là-dessus. Et en fait, dans ce livre, il explique, lui, comment... les œuvres d'art, et en général l'art et l'accès aux œuvres, en fait, peuvent guérir plein de maux, en fait. Alors pas que des maux psychologiques, hein, aussi des symptômes physiques, et que c'est une démarche aujourd'hui qu'il faut vraiment intégrer. Le deuxième aspect, c'est que l'OMS, en 2019, a recommandé l'accès à l'art et aux œuvres d'art et aux musées pour soigner les gens. Ça fait partie des principes que l'OMS a voulu mettre sur la table en 2019.
D'ailleurs, juste pour... Il y a des médecins qui font des prescriptions médicales où il est marqué aller à la bibliothèque, lire un livre, voilà. Aller au musée. Ça peut faire sourire, mais c'est vraiment des choses qui sont... C'était vraie posologie, on va dire.
Et puis peut-être que ça nous a sauvé, en tout cas, une grosse partie d'entre nous, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais pendant le Covid, si on n'avait pas eu le rapport aux œuvres, et notamment au cinéma... à la lecture, à la musique, mais on serait devenu dingue, on se serait entretué. Et dans des familles, c'était pas loin de ça. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, parler de l'art et des œuvres, en fait, c'est faire culture commune, c'est rapprocher les gens. Du coup, de le retrouver dans le PPV, pour nous, c'est essentiel, quoi, et ne pas en parler. Alors, on a parlé énormément du sport. C'est bien, il faut. Et il n'y a pas de dichotomie entre le sport et la culture. Il y a pas à choisir. Et les deux sont essentiels à la vie.
Ouais, ce qui était intéressant dans les débats qu'on a eus, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'on était presque tous sur des thématiques vraiment de fond, qui étaient le lien social, en fait. Hein. C'est rigolo parce que nous, la Ligue et les foyers ruraux, on est sur le aller vert, là, qu'on appelle. On s'est aperçu que le Secours catholique était sur le aller vert et d'autres organismes étaient sur le aller vert. Et en fait, c'était vraiment aller auprès des gens pour leur apporter le sport, la culture, le lien, la fraternité, etc., etc. Et donc, c'est fondamental, quoi. Et c'est vrai que, oui, sur le sport, moi, je reprendrai... Le dramatique, c'est qu'on a des espaces énormément intéressants. On nous parle beaucoup des trailers lodériens et autres. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en zone de rurale maintenant, c'est là où on marche le moins. Parce que tout le monde prend la voiture, tous les paysans prennent leur quad, etc., etc. Et en réalité, on marche moins qu'en ville. C'est quand même le pire des pires. Et on est dans une situation, même par rapport à ça, qui rejoint le problème de la maladie, c'est qu'aujourd'hui... on est incapable de marcher suffisamment pour bien digérer, pour bien dormir ou pour bien vieillir aussi, en fait. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est ce truc de aller vers, là, ça a été quand même ce qui nous a rassemblés tous. Hein. Et finalement, les collègues de la fédération des Les handicapés, ils étaient pareils sur la même thématique, parce qu'en fait, ils se trouvent totalement isolés. Hein. Des fois, ils n'ont pas l'accès aux salles de spectacle, ils n'ont pas l'accès à des choses comme ça. Et en fait, les propositions qui allaient vers leur donner à eux la possibilité d'aller, de recevoir de la culture, du sport et autres, c'était fondamental. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'est vrai que la Lozère, le transport, ça rejoint, c'est fondamental. Quoi.
Mais justement, j'ai tourné vers vous, Rose, pour préparer cette émission. Vous m'avez transmis des documents de travail avec ces grandes feuilles à noter. Vous pouvez un peu m'en parler, justement, c'était un peu les conclusions de ces tables rondes.
Voilà, oui. C'est-à-dire qu'après, une fois que les tables rondes que tout le monde a pu faire ces tables rondes, donc on a affiché ces résultats, si vous voulez, cette synthèse, dans chaque thème. Et là, chacun a pu s'exprimer, chacun a pris une gommette et a dit, parmi tous ces thèmes, quels étaient pour eux les thèmes importants. Et on a vu que, bon, tout le monde, beaucoup, ça a été une participation, les gommettes, elles ont été assez nombreuses, d'ailleurs, et on a pu extraire des thèmes qui étaient peut-être, pour nous, surtout des axes de travail pour le futur, des choses qui sont importantes pour les gens, et que ce retour-là, après ce travail, que ça soit un retour vers les personnes qui ont participé, que ça soit pas quelque chose de statique, et justement, ça donne aussi pour nous des thèmes d'évolution aussi, pour nos organisations.
Oui, c'est ça, là, j'ai la feuille devant moi avec quelques exemples que je vais pouvoir citer. Par exemple, dans la table ronde « Mieux se soigner », il y avait « Favoriser les étudiants en médecine dès la première année pour s'engager à s'installer en zone de désert médical ». Pénurie de médecins du travail, médecine scolaire, permis de conduire. Voilà, c'est des fois des mots-clés qui permettent aussi après d'engager plus tard des actions, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Tout à fait. Puis ça permet aussi, cette synthèse nous permettra aussi peut-être de faire des courriers vers les élus, parce qu'on a eu la députée à participer à ces tables rondes. Mais bon, au niveau du département, au niveau de la préfecture, il y a tout un tas d'actions à mener aussi. Et avec ce support, on est plus crédible, en fait, parce que c'est pas que le rapport de nos sociétés, de nos associations, c'est quand même le retour des Lozériens hein, qui étaient là.
Et justement, les thèmes commencent tous par le mot « mieux ». Voilà, on a mieux se déplacer, mieux manger. Même le thème principal, c'est « mieux vivre en Lozère ». Alors, une question un peu, pas provoque, mais paradoxale. Est-ce que ça veut dire que l'on vit mal en Lozère ou en tout cas pas assez bien ?
Disons que la Lozère a des atouts qui sont indéniables. Les paysages, les temps pour aller au travail ou des choses comme ça. Après, il ne faut pas se cacher, on a quand même aussi des carences par rapport à d'autres territoires, dans le domaine de la santé, qui est le plus criant, dans le domaine du transport, où il faut absolument avoir une voiture en Lozère, sinon on est mort, il n'y a pas de transport en commun quasiment. Dans les domaines de beaucoup de domaines, on est, bon, le coût du chauffage en Lozère, on est en altitude, donc il y a des coûts quand même qui sont importants. Donc il y a une précarité qui existe malgré le fait qu'on soit dans un département. Et on est aussi convaincu qu'il y a des solutions à apporter, c'est-à-dire en fait, je sais pas, des jardins ouvriers, de rapprocher le producteur du consommateur. Alors qu'en Lozère, on a beaucoup de producteurs qui font de très bons produits. On est quand même un département pilote en termes de bio, en termes de toutes les vaches ici sont dehors tout le temps, enfin, etc. Donc on pensait, nous, qu'aujourd'hui, bon, les marchés, par exemple, à part le marché de Langogne, on est bien convaincus qu'il manque des marchés adaptés pour relier le consommateur et le producteur en direct. Voilà, des choses comme ça. Et donc là-dessus, il y avait vraiment du travail à faire et peut-être qui est peut-être moins fait. Voilà, les élus ont beau être dans le train-train habituel de leur collectivité, ils ne se rendent peut-être pas compte obligatoirement des solutions qu'il faudrait apporter. Hein. C'est pareil pour le logement, hein, où bon, on est quand même dans un territoire, il y a énormément de résidences secondaires, énormément de logements vacants, et il manque 3000 logements. Hein, donc en gros, c'est quand même un problème. Donc essayez là aussi de faire des conventions avec des par exemple des résidences secondaires pour qu'elles puissent être utilisées plus régulièrement, des choses comme ça.
Alors pour rebondir sur ce que tu dis, dans le PPV, c'est aussi des propositions quand même, hein. Essayer, alors au lieu de mettre du transport à tout va, qui coûte cher, et puis il faut aussi la rentabiliser. Quelque part, il faut qu'il y ait des gens dans les moyens de transport pour que ce soit intéressant. C'est aussi peut-être de concevoir que le travail qu'on fait à la fois sur le soin, sur le rapport à la nourriture, le sport, en fait, que nous, on puisse aller vers les gens avec des propositions. Ouais. Et donc, cette mobilité, elle se traduit aussi dans les services publics, elle se traduit dans les associations, elle se traduit dans les propositions culturelles. C'est sûr que Mende, avec sa centralité, a déjà beaucoup de choses. Mais que sur le reste du territoire, en fait, nous, on s'en aperçoit. On était à Saint-Étienne-du-Val-de-Lez, c'est pas très loin de Mende. Mais il y a des enfants, si on n'était pas allé ce matin, en faisant deux représentations, en installant la veille, dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales. Mais c'est essentiel de le faire. Et si on ne le fait pas, pour moi, aujourd'hui, il y a des missions qu'on ne remplit pas. Et ça, c'est très important de le dire.
Mmh. Bon. On pourrait parler encore des heures du bilan de ce laboratoire gesticulé, et on reviendra d'ailleurs sur les potentielles traductions politiques derrière qu'il y aura, mais il faut avancer, et du coup tout de suite on fait une petite page, petite pause musique.
Storytelling, pas de plan B, y'a pas de tuto en ligne pour nous ressembler. On t'a vu faire le fou, on t'a vu flamber. Si t'as pas compris, Merlich, mon frère, laisse tomber. J'inviterai ceux qui m'ont boycotté, c'est ma manière à moi de me venger. Je vais pas mentir, j'ai déjà trahi des potes, certains m'ont trahi, peu importe, aujourd'hui je trinque à leur santé. Ce soir on est 15 devant l'entrée. Oh là là, c'est magnifique. Nous on est venus pour chanter, boire et fumer comme si c'était bénéfique. Un dernier verre pour partir en paix. Oh là là, c'est magnifique. Ce soir nous on est venus pour chanter, c'est tout pour la mif, tout pour la musique. Une dizaine sur le parvis, en basket sur le pavé. Je connais la vie de mes amis, toi ce que t'en racontes c'est pas vrai. Ce soir on traîne comme on faisait déjà au départ. On partage nos peines comme on partage nos pétards. On fait la fête donc ça tape dans les mains. Alcool et guitare, pour la musique on est bien. On est soudés comme deux métaux à l'étain. J'ai des choses à faire mais je finirai demain. À 2h les bars ferment, à 2 doigts de l'étage. On est sur pied parfait, donc personne ne veut partir.
Non, personne ne veut partir. On veut voir personne partir. Personne ne veut partir.
Demain recommencera la partie.
Ce soir on est 15 devant l'entrée. Oh là là, c'est magnifique. Ce soir nous on est venus pour chanter, boire et fumer comme si c'était bénéfique. Un dernier verre pour partir en paix. Oh là là, c'est magnifique. Ce soir nous on est venus pour chanter, c'est tout pour la mif, tout pour la musique. Mais Matissi non puede entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar.
Mema, 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 mema,
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Vous écoutez toujours 48FM pour cette émission thématique qui concerne le pacte du pouvoir de vie, le PPV, en Lozère. Et alors, si on reparle du PPV aujourd'hui dans cette émission, ce n'est pas pour rien. On a rappelé la date de naissance de ce pacte, le 5 mars 2019. On était en pleine crise sociale, la crise des Gilets jaunes, qui avait commencé leur manifestation en novembre de l'année précédente, avec une envie de reprendre la main sur la démocratie. Au même moment, les élus locaux avaient lancé l'opération Mairie ouverte en automne 2018 pour remplir des cahiers de doléances, aussi appelés cahiers citoyens d'expression libre. Le président Emmanuel Macron avait à ce moment-là, lui, lancé le grand débat national. Et même le 5 avril 2019, il devait faire une allocution concernant ce grand débat et ses cahiers de doléances. Sauf que le 15 avril 2019, un événement a annulé ce discours. Est-ce que vous l'avez ?
Oui, c'est Notre-Dame de Paris qui se met à brûler et qui crée un cataclysme, un choc émotionnel dans la population française et dans le monde entier d'ailleurs.
Une heure avant son allocution, on apprend que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Paris, était en train de brûler. Il a annulé son allocution. Mais l'incendie de Notre-Dame, bon, aujourd'hui, elle a été reconstruite justement très récemment. Justement, certains médias et certains citoyens appellent justement aujourd'hui à relancer le sujet. Par exemple, rien qu'hier, une tribune au Monde a même été signée par un collectif d'universitaires à ce sujet qui appelait à relancer les cahiers doléances. Justement, je voulais un peu vous interroger là-dessus, vu qu'il y avait aussi des citoyens lozériens et lozériennes qui étaient venus à votre laboratoire gesticuler. Selon vous, cela peut redonner un nouveau souffle à ces doléances et donc, par extension, au pacte de pouvoir de vivre. Je ne sais pas qui veut commencer à rebondir sur ce sujet. Rose, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu.
Je ne sais pas. Sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on en a parlé déjà, mais c'est vrai que je ne suis pas préparée, donc je suis un peu juste.
Non, mais c'est vrai qu'en gros, aujourd'hui, on aimerait nous porter sur...
Vous pouvez reprendre, je vais être un poil
plus près.
Voilà.
On aimerait, aujourd'hui, le problème, c'est que la situation politique du pays n'est pas très favorable à mener des débats sur ce sujet-là. On préfère ne parler que des problèmes liés à l'immigration ou les problèmes, disons, de déficit de la France. Hein. Alors que, bon, effectivement, c'est tout un autre débat qu'il faudrait avoir et repartir à zéro. Et c'est bien le sens de nous, hein, la société civile, qui avons envie de ne pas être dans ce débat permanent où on nous sort des aberrations économiques et sociales, hein, sur le mal fondé de l'immigration, par exemple, alors que tout a été démontré dans les siècles passés que l'immigration a apporté du plus dans toutes les civilisations. Sur le retour sur soi-même, enfin le repliement de tout le monde sur une notion de protection, alors qu'en fait c'est l'inverse qui peut déboucher sur ce genre de choses. Donc le défendre le vivre ensemble, défendre une autre société plus égalitaire, plus ouverte au monde, etc., c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et c'est vrai que, bon, je crois que... Le problème aujourd'hui dans la situation politique où on est, je pense que Macron ne va pas se lancer là-dessus. Je ne crois pas.
Et pour rebondir là-dessus, après je vous donne la parole, Nicolas. L'article du Monde effectivement expliquait que sur ces 240 000 contributions qu'il y a eu au cahier de doléances, seulement 5% parlaient de sécurité et d'immigration. Quand on donne la parole aux Français, c'était ces sujets-là. Est-ce que justement voilà, le PPV, et aussi vous en Lozère, vous l'avez vu, c'est aussi un peu une réappropriation de l'espace politique ?
Oui, c'est ça. Je crois qu'il est confisqué en fait, parce que dans ce... Enfin, moi je ne fais pas de politique, mais je suis sur une collectivité, et je vois bien que on a oublié quelque chose, je pense, de fondamental en France, c'est l'intelligence collective. Le PPV, en fait, est d'abord une réponse à ça. De rassembler des hommes et des femmes d'obédience, de courants de pensée différents, d'univers de travail aussi différents, socio-économiques, des gens qui ont beaucoup de revenus, d'autres qui n'en ont pas, des gens qui sont à la recherche d'emploi, des gens qui sont retraités et qui ont passé leur vie à bosser, à se donner. Que aujourd'hui se pose des questions sur le regard qu'on porte sur les retraités. Et je crois que c'est assez important de se poser ces questions-là. En tout cas, le rassemblement de tous ces gens, à chaque fois, il en émane une réflexion très intelligente. Et cette intelligence collective, elle se nourrit, en fait, par l'apport de chacun. Et je crois qu'en France, on a oublié. On est dans un fonctionnement délibératif hyper présidentiel, après la Constitution de 58, qui a donné les pleins pouvoirs et que aussi les présidents s'octroient allègrement, alors que c'est pas noté comme ça dans la Constitution. Je pense que un seul homme ne peut pas comprendre et embrasser le monde. Ça n'est pas possible. Et même 500 hommes et femmes, 572 je crois, hommes et femmes, ne peuvent pas seulement embrasser le monde. Ils ont besoin des autres et de leur réflexion au quotidien. Il y a des domaines, je pense, dans l'éducation, dans l'enfance, la petite enfance, dans l'univers de l'autisme aussi, dans l'accueil des personnes âgées, dans toutes les phases de la vie, du plus petit jusqu'au plus vieux. Il y a des gens qui ont des compétences, des réflexions et des solutions. Ces gens-là, on ne les entend jamais, jamais, jamais. Pas des pouvoirs de vivre, c'est essayer de donner la parole à ces gens-là. Et comme les cahiers de doléances, et tu l'as très bien rappelé, sur les cahiers de doléances, 5% seulement parlent d'immigration. Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est le regard qu'on porte. Et Magali travaille beaucoup là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à regarder un petit peu le monde autrement, à considérer les gens par leur singularité et pas du tout par leur statut social. Donc, moi, j'en appelle aujourd'hui aux politiques, ouais, à s'ouvrir. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont au pouvoir et qui... aujourd'hui aurait la conscience profonde de faire une société, voilà, de mettre leur désaccord de côté et de se dire qu'il faut, comme on l'a fait dans les années pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, de faire un plan Marshall social, un plan Marshall de santé, un plan Marshall de la justice, un plan Marshall de la culture et de l'éducation. Et si on n'a pas compris ça, demain, voilà, on aura des gens qui vont être radicalement opposés à tout ça et très réactionnaires. Et ça ne donnera rien de bon.
Pour conclure cette partie, peut-être Rose ou Magali, on parlait de l'intelligence collective. Vous qui avez animé, qui avez surtout assisté à ces tables rondes, encore une fois, le 14 novembre dernier, vous avez des exemples concrets, vous vous rendez compte, vous, de ce travail-là, d'une personne proposait un sujet, l'autre bondissait, à la fin, on avait une proposition... intelligente et commune.
En fait, c'est un peu ce qui était dit, notamment par Nicolas. Enfin, c'est cette idée de quand on vit ensemble, en fait, on échange ensemble, on apprend à mieux se connaître. Alors, aussi, pour rebondir sur ce qu'il disait, je trouve que le maître mot, c'est éducation. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte de parier sur le temps long. Parce que souvent, il y a des annonces, donc c'est du temps court. Il faut vite répondre à une urgence, il faut mettre des choses en valeur, se dire qu'on fait quelque chose. Mais en fait, il faut vraiment parier sur le temps long. Parce que sans ce temps long, et donc qui est représenté par l'éducation, il ne peut pas y avoir de temps court. Parce que la base, elle n'est pas là. Donc, réapprendre à vivre ensemble. En fait, le pacte du pouvoir de vivre, c'est ça. C'est-à-dire, on vient d'horizons différents, on est de sexes différents, on a des croyances, des idées, des sensibilités différentes. Mais en se parlant, en fait, on apprend à mieux se connaître. Et du coup, on se dit, ah bah tiens, je pensais que c'était comme ça. Et bah, finalement, non. Donc, on fait aussi tomber des idées reçues qui sont un peu, des fois un peu bêtes, mais qu'on avait ça en tête. Et le fait de mieux et de discuter ensemble, tout de suite, on dit, ah bah oui, effectivement, en fait, on a plein de choses en commun. Et je pense que c'est vraiment une sorte d'exemple qu'on peut... En tout cas, c'est de dire aller vers l'autre. On revient vers le aller vers, en fait. Hein. C'est circulaire.
Oui, là, une des grosses notions qui est sortie du débat, quand même, c'est que la prévention valait mieux que le traitement. Et que dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du sport, si on laisse faire tout et si on ne fait rien, ça coûtera de plus en plus cher dans tous les domaines, hein, alors qu'on a les moyens, On est un des pays quand même où la prévention est particulièrement maltraitée, hein, parce qu'elle soit santé, qu'elle soit et je pense que dans nos assises là, la prévention est revenue vraiment fortement avec l'obligation un peu de revenir vers cette notion là dans tous les domaines de la vie.
Et Rose, c'est vrai que j'aurais pu commencer par cette question dès le début, mais on parlait donc qu'il y avait une cinquantaine de personnes. Mmh. Justement, quel était le profil de ces 50 personnes ? C'était justement ce profil-là très varié, des plus jeunes, des moins jeunes, des gens plus aisés, moins aisés.
Je pense que c'était vraiment un reflet de notre société mandoise, hein, ou à peu près. Je pense qu'il y avait quand même des gens de Marvejols aussi, mais je pense que c'est vrai, c'était très hétéroclite. Et puis, vraiment, les gens étaient venus parce qu'ils avaient des choses à dire. On sentait que les gens étaient venus là, c'était un choix. Ils n'étaient pas venus pour voir. On sentait que, bon, mais dans beaucoup de groupes, hein, je pense que dans toutes les tables, je pense ce que tu disais tout à l'heure là, les gens, il y a une personne qui a lancé une idée, l'autre a rebondi, elle a donné son exemple, et puis bon après on voit bien que sur le quand on a fait la synthèse, il y a quand même des choses qui sont sorties, donc ça veut dire que on a retrouvé quand même beaucoup de choses qui nous mobilisaient chacun sur ces choses là.
Bon, le temps file, donc je vais passer à une troisième partie, mais qui est en lien, et puis on va rester avec vous, Rose, justement, sur le côté, le fait d'avoir, de faire le rapporteur, pardon, la rapporteuse. On en a parlé tout à l'heure aussi un peu avant l'émission. Donc, sur ce PPV qui a commencé en 2019, il y avait quatre axes majeurs, notamment protéger l'avenir et celui des générations futures. Également, une phrase qui est souvent ressortie, moi, que j'ai lue, que je trouvais belle, c'était donc comment concilier lutte pour la fin du monde et bataille pour la fin du mois. Mais vous me disiez tout à l'heure que peut-être un regret, ou en tout cas quelque chose qui est moins ressorti, c'est peut-être l'aspect environnemental, l'aspect écologique.
Oui, on en a parlé un petit peu au début, Jean-Pierre l'a dit, on a quand même une difficulté, nous, ici en Lozère, justement, de trouver des interlocuteurs sur ce thème-là, par rapport aux associations signataires du pacte. Et donc, c'est vrai que c'est important, parce qu'on le voit par rapport au transport, par rapport au logement, par rapport à beaucoup de choses. Et là, on a quand même... On va y travailler. Je pense que c'était un petit peu ce qu'on avait dit en fin de discussion, qu'on allait essayer de voir comment on pouvait raccrocher toutes ces associations qui travaillent là-dessus, et voir comment on pouvait travailler ensemble aussi sur ce domaine-là. Voilà, là, on a un petit peu... C'est un peu empêché, là. On était partis sur déjà beaucoup de thèmes. Ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas guère à faire trop de choses non plus. Mais c'est vrai que c'est un volet auquel on va... Je pense que dans l'avenir, on va travailler plus précisément.
On a l'impression aussi que c'est lié au... Quand on voit les derniers débats nationaux sur la politique, on a aussi l'impression que cet aspect environnemental est un peu parti actuellement, on n'en parle plus beaucoup. C'était peut-être un peu une traduction, je ne sais pas qui voulait réagir.
Alors moi, juste pour pondérer, en fait, pour moi, alors, l'environnement, c'est plus une éducation au vivant. Et en tant qu'éducation au vivant, l'homme, en tant qu'être vivant, fait partie de cette grande chaîne, entre guillemets. Donc, c'est un peu transversal. Enfin, c'est des thèmes où ce vivant, on va le retrouver un peu dans toutes ces thématiques-là. Donc, après, effectivement, peut-être avoir une association, on va dire, qui serait un petit peu plus, qui représenterait plus cette thématique-là. Mais je pense que ces thématiques-là, ces préoccupations-là, c'est tellement important que ça, c'était un petit peu une sorte de fil rouge qu'on pouvait retrouver dans les différentes thématiques. Parce que pour moi, effectivement, c'est l'éducation vivant. Alors, on revient sur de l'éducation, mais voilà, cette grande chaîne du vivant qui fait qu'on en fait partie et que du coup, on est vraiment partie prenante, en fait, du monde. Enfin, on n'est pas ni au-dessus ni à côté, on est dedans.
Oui, mais c'est vrai quand même que les associations comme le Réel 48, le Verger de Lozère ou, par exemple, le Jardin Nature 48, il faudra qu'on essaye de voir comment on peut s'associer quand même avec eux. Alors c'est vrai que c'est des gens qui ont créé des associations aussi. Le Réel est quand même sur le réseau Graines qui fait partie de Nature Environnement. Donc en fait, déjà le Réel pourrait être aussi dans les 8 organismes, mais on pourrait ajouter un 9e. Pour les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté pure de se fédérer au plan national, etc. Même s'ils sont dans la même cohérence que les mouvements nationaux. Mais c'est vrai qu'en gros, je pense qu'on a quand même, sur des notions qu'on a développées dans nos débats, là, sur la relation entre, par exemple, les producteurs et les consommateurs, la relation entre...
Oui, sur le bien-manger, oui.
Sur le bien-manger, etc. Je pense que c'est... Et d'ailleurs, il y en avait, hein, qui étaient présents. Il y en avait deux, travaille au conseil départemental sur les notions d'environnementales, qui était présente. Il y avait une fille qui faisait de l'éducation à la santé, enfin, l'éducation au bien manger. C'est des choses qu'on a notées d'ailleurs et qu'on fera remonter dans toutes les collectivités publiques et organismes sociaux comme la CCSS ou la MSA.
Oui, je pensais aussi, c'est vrai qu'il y avait j'ai cru lire également l'aspect sur bien se déplacer. Il y avait aussi des vélos électriques, penser ouais. à des pistes cyclables. Ouais. Voilà, on c'était quand même ça dans le thème. Ouais. On va arriver vite sur la fin de cette émission avec une dernière partie un peu sur, encore une fois, la projection, la suite en Lozère. Et moi, je voulais un peu aborder la question du... Alors, je ne sais jamais comment on le prononce, du CESE ou du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Toujours sur ce PPV, les mesures 58 et 59 en parlent, hein, je vais les citer. Inclure des citoyens et citoyennes tirés au sort dans les CESE et les CESER, les Conseils économiques, social et environnemental régional. CESER, voilà, CESER. Ouais. Et la mesure 59, c'était mieux inscrire les CESE dans le processus élaboratif et législatif et renforcer son rôle d'évaluation des lois et des politiques publiques. Quid en Lozère de ces CESE?
Alors, ces CESE, je crois qu'il n'y en a pas.
Au départ du conseil départemental, Sophie Pantel avait créé un conseil de développement qu'on appelait sur le Lozère. Il y a eu deux réunions et puis ça il n'y a plus jamais eu aucune réunion. Et c'est vrai que c'est dommageable parce qu'en fait, mettre tous les partenaires autour d'une table, même si c'est des partenaires, si c'est pas dans les... moi je suis OK sur le fait qu'il faudrait aussi en nommer des gens comme ça, mais en gros, même les organismes devraient quand même pouvoir faire remonter les besoins, les choses comme ça, alors qu'en fait aujourd'hui on a un manque total et un manque criant quand même d'endroits où on peut parler en collectif, quoi. En gros, chacun va... On est arrivé à un stade où chacun va pleurer son petit bout de gras pour dire pas les mêmes choses d'ailleurs. Quand on voit les syndicats agricoles qui vont voir le président du département, il les reçoit, il est toujours content avec tous, mais en fait ils disent pas du tout les mêmes choses. Et nous c'est un peu pareil quoi, en gros, alors que bon, aujourd'hui il y a quand même des situations criantes. Alors, nous, foyers ruraux ou lits de l'enseignement, on en est victimes les premiers parce qu'en fait, quand il y a une crise, qui c'est qui en souffre le plus, c'est les associations comme les nôtres, hein, où les baisses de la région, par exemple, a baissé ses subventions de 25 à 30% ou à 50% même pour certains. Le département donne les mêmes sommes, mais en francs constants depuis 3 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une baisse de 10% quand même globalement. Donc en gros, toutes les collectivités publiques ont baissé leurs aides sur... le niveau associatif et notamment sur les organismes comme nous, départementaux. Et donc c'est vrai qu'on est quand même dans une situation extrêmement difficile. Alors que, bon, l'argent, il y en a, c'est pas le mot, mais on voit bien qu'il y a des gaspillages monstrueux qui sont faits dans de nombreux domaines. Et à côté de ça, les gens qui sont là, qui sont des animateurs de territoire, qui sont là justement pour créer ce qu'on recherche, c'est d'ailleurs le lien permanent, il disparaît, quoi.
Nicolas, le CESE, c'est le chaînon manquant pour transformer un peu l'essai du PPV dans des réalités après politiques?
Je ne sais pas. Je ne suis pas fondamentalement convaincu que les structures, aujourd'hui, soient de vraies réponses. Je pense que c'est à chacun, en tout cas, de prendre ses responsabilités et de s'engager s'il en a envie. Et que les gens, comme l'a dit très bien Jean-Pierre, que les gens qui sont déjà engagés, ils aient déjà un espace d'écoute. Je pense qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'infrastructures. Il y a le conseil départemental, le conseil régional, il y a les préfectures, il y a des délégations, il y a tout un tas de choses qui existent, sauf qu'il n'y a pas d'interaction. Chacun traitant d'un domaine extrêmement spécifique sans vraiment voir en fait le lien. Le dénominateur commun, c'est l'être humain. D'accord ? C'est quand on est tout petit, les conditions de vie, les besoins ne sont pas les mêmes que quand on est âgé. Mais c'est le même individu. Or, il faut qu'on rentre à chaque fois dans des tranches. Alors le jour où on a un handicap, il faut qu'on rentre dans la situation avec la MDPH, avec une reconnaissance, avec... En fait, c'est devenu extrêmement compliqué pour l'être humain de vivre dans tous ces espaces dans lesquels il n'y a que de la dichotomie, avec leurs propres procédures qui sont rarement des guichets uniques. Donc, en fait, on ne peut pas y arriver. Tout est devenu trop compliqué. Il y avait soi-disant des simplifications administratives. Elles n'existent pas, je suis désolé, mais ça n'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, je passe plus de temps à être dans un bureau à faire de l'administratif qu'à être sur le terrain avec les gens. Et ça, c'est pas normal. On a oublié un phénomène très, très important, c'est que l'administration en France et l'État est au service des êtres humains. Voilà. Donc, faut qu'on revienne vers ce concept qui est extrêmement simple. Réinterroger les gens, leurs besoins sur les territoires avec tous les partenaires. Voilà. Et pas pondre des directives qui arrivent de je sais pas où et qui sont à chaque fois parachutées sur des protocoles. En fait, ça ne nous intéresse pas. Alors que ça existe pour des fonctionnements administratifs, pourquoi pas, mais ça doit être transparent pour les gens. Or aujourd'hui, on passe trop de temps à ça. Donc, les associations sont en perte de vitesse, il faut faire des dossiers, on est sur des appels à projets, on est en compétition les uns avec les autres, alors qu'une association, son premier article, c'est quand même son objet social, elle n'a pas le même objet social que l'autre association d'à côté, donc elle n'a pas à être compétition, puisqu'elle crée du lien social et elle rend un service public, souvent, que l'État ou la collectivité ne pourrait pas faire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On se désarme, on est en train de mettre en l'air tout le réseau associatif en France. Et ça, on n'en prend pas conscience, mais quand on va le faire, il sera trop tard.
Et c'est au lieu d'avoir des conventions triannuelles ou quadriannuelles ou plus avec les organismes comme les associations ou les organismes, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est les appels à projets.
C'est ce que j'allais dire.
Appels à projets qui sont permanents, appels à projets avec toujours un volet innovant, etc. etc. Sauf qu'en gros, quand on voit ça derrière, ça veut dire qu'en gros, on va supprimer ce qui fonctionne extrêmement bien pour programmer des choses qui seront pas obligatoirement mieux et certainement moins bien. Donc, c'est vrai que ce retour sur les appels à projets permanents, là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont là toujours en train de veiller aux appels à projets, voir comment on les remplit.
Donc il faut faire des veilles techniques à chaque fois, il faut regarder s'il n'est pas sorti, les délais sont devenus super courts, c'est un mois.
Et surtout, c'est totalement contre-productif parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des objets, chaque association a son objet social et en plus, on parie sur le temps long. Donc comment pérenniser des actions, des relations avec les gens quand on doit faire des projets innovants qui changent tous les ans. C'est un peu compliqué.
Et pour revenir au CESE, peut-être que si le CESE avait une part importante et en tout cas un droit, alors je sais pas lequel, pas un droit de vote, mais en tout cas de s'opposer à certaines démarches, peut-être que ça permettrait d'échanger beaucoup plus. Mais quand on pose un appel à projet que nous on sait pas d'où il sort en fait, parce que qui l'a pondu en fait, on n'a pas le nom, on sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Par contre, nous, on n'a jamais été consulté pour nous dire est-ce que cet appel à projet il est cohérent sur votre territoire, est-ce qu'il y a une demande derrière, est-ce qu'il y a un besoin. Alors je pourrais vous en citer des tonnes en fait, et tous ces appels là en fait ne sont jamais évalués. Et en fait il y a un gaspillage dont parle Jean-Pierre qui est très très important, c'est-à-dire que dans ces politiques publiques en fait on n'évalue pas. Donc si on n'évalue pas en fait on peut pas savoir ce qu'il y a. Donc on continue avec des mesures en fait où c'est des centaines de milliers d'euros qui n'ont pas un effet suffisant sur le territoire pour être maintenus. Mais on les maintient parce que si on ne dépense pas l'enveloppe, vous voyez le schéma.
Et qui mettent à mal les associations parce que ça les éloigne de leur objet social, ce pourquoi les gens se sont engagés et pourquoi ils ont été créés. Parce qu'en voulant effectivement avoir pouvoir continuer à exercer, elles répondent aux appels à projets pour vivre, mais elles s'éloignent de leur objet social primaire. Donc ça, ce n'est pas possible.
Je vais quand même finir sur une bonne note. Parce que vous parlez par exemple, vous voyez que là dans les mesures de se déplacer, il y avait améliorer les transports en commun. Alors entre parenthèses région, mais là par exemple sur la ville de Mende, pas plus tard que demain, il y a une conférence de presse là pour annoncer. Donc la ville de Mende va présenter son nouveau transport urbain avec des nouvelles lignes et notamment un bus à la demande. Donc voilà.
Transport à la demande.
On va voir que.
Donc, TAD.
Donc on voit quand même qu'il y a du lien. Est-ce que quand même là, vos mesures, la synthèse du PPV, comment là dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi les prochains rendez-vous et comment ça pourrait être traduit justement? Vous allez toquer aux portes des différents élus pour porter cette voix?
Oui, ce qu'on avait dit au départ, enfin, après notre conférence, là, à partir de la synthèse, on a dit qu'on allait se réunir le plus tôt possible, en tout cas, pour déjà donner les résultats de notre travail et puis interroger justement les élus, les structures comme la Sécurité sociale, l'ARS, etc., sur tous ces thèmes qui vraiment touchent les Lozériens et qui sont importantes. Voilà, c'était la première démarche qu'on devait faire et après, on verra.
Merci, avocate, d'être venue pour cette émission spéciale, une émission sur la thématique du PPV, le pacte de pouvoir de vivre. Quand même, je vais vous représenter, donc Nicolas Trottoin, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement de la Lozère. J'avais avec moi aussi à ma gauche Magali Allier, coprésidente de cette même Ligue de l'enseignement. Jean-Pierre Allier aussi autour de cette table, donc président des foyers ruraux de l'Anglade et membre du conseil d'administration de la Fédération départementale des foyers ruraux. Et enfin Rose Filba, coordinatrice du PPV en Lozère et rapporteuse de la synthèse du laboratoire gesticulé. Puis on se retrouve pour une prochaine émission sur 48FM. Merci à vous quatre.
Merci.
Merci. Merci.
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.